VOA Afrique, les infos à Washington.
Avec vous Henri Francisque, 13h à Abidjan, 14h à Bangui, bienvenue à notre journal. Agitation anglophone au Cameroun, plusieurs centaines de millions de francs CFA ont été collectés auprès des Camerounais pour aider à financer un plan d'urgence en faveur des régions anglophones du pays en proie à une grave crise sociopolitique. C'est ce qu'ont annoncé ce mardi les médias d'État. Près de 230 millions ont déjà été recueillis lundi à Douala, la capitale économique du pays. Et fin juin, plus de 152 millions de francs CFA avaient été collectés dans la région du centre et 120 millions dans celle du sud, selon la CRTV, la radio-télévision camerounaise. Mais mi-juin, le gouvernement camerounais avait annoncé la mise en place d'un plan d'urgence humanitaire pour les deux régions de la minorité anglophone. Un programme d'un coût de 12,7 milliards de francs CFA censé être financé par le budget de l'État, l'appel à la solidarité nationale et la contribution des partenaires internationaux. Quelques 160 000 personnes ont dû fuir leur foyer à la suite des violences dans le nord-ouest et le sud-ouest anglophone, où les combats sont devenus quasi quotidiens entre les forces camerounaises et des éléments armés, se réclamant des forces de restauration d'un État anglophone qui avait brièvement vu le jour entre les deux guerres mondiales sous mandat britannique. Au Congo-Brazzaville, quatre compagnons du général Jean-Marie Michel Mokoko ont été condamnés lundi à 30 mois de prison ferme par la cour d'appel. Ses opposants n'avaient pas été jugés en même temps que le général Mokoko, car ils ont été dessaisis de l'inculpation d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Plus de détails avec notre correspondant Arsène Séverin à Brazzaville.
Jacques Bananganzala, Jean Gwabi, Anatole Limbongo Ngoka et l'homme d'affaires Yvan Ghislain Tende Mungondo ont été condamnés pour complicité. Le juge correctionnel a estimé qu'ils avaient appuyé financièrement l'action du général Mokoko visant à déstabiliser le régime de Brazzaville. Arrêté en 2016 à différents endroits du pays alors qu'ils surveillaient l'élection présidentielle pour le compte de leur candidat Jean-Marie Michel Mokoko, ses opposants ont d'abord été détenus pendant de longs mois dans les geôles de la DGST. Ils ont ensuite été transférés à la maison d'arrêt où ils ont attendu leur procès et maintenant où ils purgeront leur peine. Ils ont déjà passé en tout 27 mois en prison. Jugés en première instance par la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Brazzaville, ses compagnons de Mokoko disposent de 3 jours pour faire appel. Dans la foulée, le propriétaire du journal critique Talassa, Juste Fortuné Ndombembemba, a été mis en liberté provisoire le temps que son procès se tienne. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
En RCA, polémique autour de l'initiative de l'Union africaine pour la paix. Plusieurs organisations de la société civile et des partis politiques sont hostiles à ce projet qui prévoit un dialogue entre le pouvoir en place et les groupes armés. Le point avec le correspondant de VOA Afrique à Bangui, Freeman Sipila.
Pour une sortie de crise en Centrafrique, l'Union africaine a mis en place un panel de facilitateurs pour échanger avec les groupes armés et le pouvoir. Selon la feuille de route, un dialogue devait être organisé uniquement entre les deux parties. Les organisations qui se sont montrées les plus hostiles à cette initiative, ce sont celles de défense des droits de l'homme. Joseph Bindoumi, président de la Ligue centrafricaine des droits de l'homme.
Nous avons réagi négativement à cette initiative. Lorsque le peuple n'est pas d'accord avec une démarche que vous avez engagée, la meilleure façon c'est de se ressaisir, de s'arrêter et de demander l'avis du peuple. Or, malheureusement, nous avons constaté que concernant ce dialogue, vous faites aujourd'hui un sondage en République centrafricaine, vous allez voir que le peuple, toute entité confondue, ne veut pas de ce dialogue. Il y a des membres du gouvernement qui ne sont pas d'accord avec ce dialogue. Il y a des membres du Parlement qui ne sont pas d'accord avec ce dialogue. Il y a les membres de la société civile qui ne sont pas d'accord avec ce dialogue.
Parmi les membres de la société civile qui ne sont pas d'accord avec ce dialogue, Gervais Lakosso, coordonnateur du groupe de travail de la société civile centrafricaine.
De prime abord, ce n'est pas une solution, à condition qu'on centrafricanise suffisamment la démarche. Ils savent très bien ce qu'ils sont en train de faire. Ainsi, si cette conférence-là ne s'adapte pas à ce que nous souhaitons, nous allons prendre les dispositions citoyennes pour que cette conférence ne se tienne jamais.
Dans le milieu politique, l'opposition démocratique donne un autre son de cloche. Les trois principaux partis qui sont l'URCA de Anissé Georges Dologuélé, le RPR de Alexandre Ferdinand Guindé et le parti de l'avocat Crépin Bolingouba sont favorables à cette initiative. Leur seule condition, l'intégration de toutes les forces vives de la nation dans les débats. Alexandre Ferdinand Guindé.
Première des choses, nous soutenons la feuille de route de l'Union africaine. Mais nous disons que ce dialogue-là doit être inclusif. L'expérience a toujours prouvé que les dialogues avec un format gouvernement et groupes armés ont toujours donné des résultats négatifs.
En Centrafrique, de nombreuses personnes dénoncent un nouveau partage de gâteaux avec les bourreaux du peuple. Pour le pouvoir, il n'en est pas le cas. Évariste Ndamana, directeur de cabinet au secrétariat général du gouvernement.
Il est hors de question que des questions, par exemple, d'impunité, de partage de pouvoir soit évoqué. Donc c'est pour dire que les objectifs visés par ce dialogue, c'est arriver à un accord qui puisse permettre la mise en œuvre effective des recommandations issues du forum de Bangui, mais dans le strict respect de la constitution de notre pays.
Jusqu'aujourd'hui, aucune date n'est encore officiellement fixée pour la tenue de ce dialogue, dit-on à l'étranger. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Rideau hier sur le sommet de l'Union africaine en Mauritanie, parallèlement aux questions de sécurité liées aux crises sur le continent, dont celles en République démocratique du Congo, au Sahara occidental et au Soudan du Sud, les leaders de l'Union africaine ont discuté de la zone de libre-échange continentale, la ZLEC, qui pourrait représenter un marché de plus de 2,2 milliards de personnes. Les précisions de Jean-Roger Bion.
De bonnes nouvelles à l'issue du sommet de Nouakchott sur le front de la zone de libre-échange continentale. 44 pays sur 55 avaient signé en mars à Kigali l'accord sur la ZLEC. 5 nouveaux pays ont signé dimanche. L'Afrique du Sud, la Sierra Leone, la Namibie, le Lesotho et le Burundi. 6 pays ont ratifié l'accord qui entrera en vigueur quand 22 l'auront fait. C'est un progrès significatif, il faut relever des progrès notables vers l'Afrique que nous appelons de nos voeux, a déclaré le président en exercice de l'Union africaine, Paul Kagame, à l'issue du sommet. Les dirigeants africains veulent également mieux coordonner avec l'Europe au sujet des migrants, a déclaré le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, faisant allusion à la mise en place d'un observatoire sur la migration basé à Rabat, décidé par le sommet. Le président français Emmanuel Macron s'est entretenu lundi à Nouakchott avec les dirigeants de la force conjointe du G5 Sahel en marge du sommet qui s'est achevé le même jour, assombri par des attaques djihadistes dans des pays du Sahel. Au menu de ces entretiens, la lente montée en puissance de la force conjointe mise en place pour lutter contre les djihadistes et appelée à terme à prendre le relais de la force française Barkhane, déployée notamment dans le nord du Mali.
Toujours concernant le sommet de Nouakchott, les leaders de l'Union africaine ont fait bloc autour de la candidature du Rwanda pour diriger la francophonie. Les détails avec Raïssa Girondin.
L'Union africaine a demandé à tous les membres de la francophonie de soutenir la candidature du Rwanda. Un soutien collectif à la candidature de Louise Mushikiwabo, la chef de la diplomatie rwandaise, à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie, a donc été pris à Nouakchott. Avant l'ouverture du sommet, le président rwandais Paul Kagame, président en exercice de l'Union africaine, avait dit qu'il tenterait de s'assurer du soutien de ses homologues. Paris appuie déjà cette démarche qui permettrait de ramener la direction de l'OIF en Afrique. La francophonie s'est invitée à ce sommet après 4 ans de mandat de la Canadienne Michaëlle Jean, candidate à sa propre succession. Le prochain sommet de la francophonie devant désigner le futur chef de l'OIF se réunira les 11 et 12 octobre prochains en Arménie.
En Côte d'Ivoire, les opérations de révision des listes électorales qui ont enregistré moins d'un demi-million de nouveaux électeurs étaient entachées d'irrégularités. C'est ce qu'a dénoncé lundi à Abidjan un avocat qui représente à la fois des candidats indépendants et de l'opposition. Le point avec Morgane Guérièque.
Dans plusieurs villes, des personnes se sont fait inscrire sur des listes en dehors de leur zone territoriale de vote, a accusé Maître Clavernerie. Sans préciser le nombre de cas litigieux, il ajoute qu'il faut clarifier toutes ces questions pour que des contestations ne puissent encore diviser les Ivoiriens lors des élections municipales et régionales couplées cette année et pour la présidentielle de 2020. Des candidats avaient déjà dénoncé des fraudes au plateau, le quartier des affaires d'Abidjan. La commission électorale indépendante a assuré enquêter sur ces allégations. L'opération de révision des listes électorales, qui s'est déroulée du 18 au 24 juin, a abouti à l'enregistrement de plus de 428 000 personnes, qui s'ajoutent à plus de 6 300 déjà sur les listes. La plateforme d'opposition coalition Ensemble pour la démocratie et la souveraineté avait appelé les Ivoiriens à ne pas s'inscrire, contestant la légitimité de la CEI, qu'elle juge déséquilibrée en faveur du pouvoir.
Et pour terminer, Coupe du monde de football 2018 en Russie, deux matchs de huitième de finale au programme ce mardi. Le premier entre la Suède et la Suisse commence à 18h temps universel, soit dans un peu moins d'une heure à Saint-Pétersbourg. Le second, Colombie-Angleterre, est prévu à 18h temps universel à Moscou. Merci de votre attention.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.